Bonjour, bienvenue sur Fracture, émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on commence un peu plus tôt que d'habitude. On commence à 16h30 au lieu de 17h puisqu'on a une grosse émission et je vais laisser les invités, si je puis dire, ou tout du moins les personnes qui sont présentes dans le studio, annoncer le sujet de l'émission. Bonjour à vous, Françoise et Jean-Pierre. Allez-y.
Bah, moi, je vais essayer, à partir des résultats des dernières élections européennes, parler un peu des représentations graphiques et sur la façon dont on peut leur faire dire une chose ou une autre.
Ok.
Voilà, et moi je ferai le point par rapport au mouvement des Gilets jaunes, savoir un peu où on en est là, à l'approche de l'été.
Après quasiment huit mois de mobilisation. Ouais. Et on aura aussi une rubrique livre qu'on abordera en fin d'émission, certainement. Bien écoutez, je vous laisse attaquer, ou d'abord on fait une petite musique, comment ça se passe? On attaque par une musique, donc qu'est-ce qu'on va écouter? Ce qu'on avait choisi sur la liste. Donc bah écoutez, on va s'écouter donc Tension sociale de The Ace, qui est une chanson de rap, je crois, puisque je l'ai écouté tout à l'heure en préparant l'émission. Donc on va s'écouter ça de suite.
Des gilets jaunes.
Gilets jaunes.
Gilets jaunes.
Gilets jaunes.
Ce qui nous dérange, c'est qu'on divise les gens entre le mauvais gilet jaune et le gentil citoyen.
Vous êtes des sales menteurs, vous ne faites pas dans le social. Vous avez bloqué l'ascenseur, normal que l'on n'ait pas le moral. Bah ouais, ça vous n'en avez pas, c'est pas qu'une question de gasoil. On ne vit pas que des aléas, il est temps de vous ôter le voile. Vous nous taxez plus que ce que l'on gagne, la paix aux oubliettes. Si vous pouviez, vous prendriez notre âme aussi tant que vous y êtes. On travaille plus pour gagner moins, le changement c'est pas maintenant. Le SMIC n'a pas bougé de son coin, mais tout augmente, c'est indécent. Intéressante, votre gestion des retraites, le dossier expire bientôt, hein, donc pas besoin qu'on le traite, ça parle de l'amour du pays. Que faites-vous pour nous rassembler? Des fausses réformes vides, un peu comme les sièges de l'Assemblée. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Et ce truc là c'est plus qu'un gilet, je le mets pour défendre mes idées. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Et ce truc là c'est plus qu'un gilet, je le mets pour défendre mes idées. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Ok très bien, je vais pas tergiverser. Très vite je te fais le topo, beaucoup de paroles viennent dans ces versets. Ingrats sont les propos, c'est triste que vous ne la voyez pas. Cette chance que vous avez de vivre en France, vous faites partie des mieux lotis je pense. Dans certains pays tu taffes pas, t'as pas de cash et puis c'est tout. Ici même si tu taffes pas, t'as le chômage, tu peux chez tout. Les allocés HLM sont pensés pour les plus démunis. Pas besoin d'être riche ou un fils d'érudit. Tout est en place pour coter les gosses et tu dis beaucoup ont réussi en partant d'en bas. Donc faites pas les têtus, vous foncez dans le tas. Vous avez la sécu, vous causez des dégâts. On s'en est aperçu, mais c'est pas comme ça. Vous aurez vos écus.
C'était donc Dace, Tension sociale, une chanson de rap sur la thématique des gilets jaunes, une des thématiques qui va nous occuper aujourd'hui. Mais je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui va donc tenter de nous expliquer comment les chiffres peuvent être et les graphiques peuvent être manipulés, notamment dans le cadre des élections européennes. La parole est à toi.
Alors c'est un problème relativement complexe parce qu'on sait que c'est très difficile de traduire visuellement sur le papier, par des graphiques ou par des représentations sur papier, des réalités extrêmement complexes. Je vais prendre comme exemple quelque chose dont on ne parle pas très très souvent, qui est connu mais dont on ne parle pas très souvent, c'est le planisphère. Comment représenter un objet sphérique et comment le coucher sur le papier, c'est-à-dire comment passer des 3D à 2D. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut faire des choix sur des choses qu'on modifie et des choix sur les choses qu'on veut mettre en évidence. En général, le planisphère qu'on peut voir un peu partout, dans les écoles, partout sur le monde, c'est ce qu'on appelle la projection de Mercator. Mercator, c'était un géographe, je crois, des années 1600, et qui a fait le choix de représenter le monde en respectant les angles, strictement les angles. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque de la navigation, c'était l'époque des conquêtes coloniales, et que les cartes, elles étaient faites essentiellement pour les navigateurs, et que les navigateurs, avec une carte qui respecte les angles, pouvaient se servir des instruments de navigation, sextants et autres. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne représentait absolument pas les surfaces réelles des différents continents, des différents pays. Et à partir de là, on s'aperçoit que ce planisphère qu'on a tous en tête et qui nous représente le monde, il est complètement faux. Le seul exemple que je vais donner, c'est le Groenland. Un Groenland qui est aussi grand que l'Afrique sur les cartes, alors que dans la réalité, il est 13 fois plus petit que l'Afrique en surface. Et bien évidemment, cette représentation en respectant les angles fait que les pays, plus on va vers le nord et plus on va vers le sud, c'est-à-dire plus on va vers les pôles, plus les surfaces vont s'augmenter. Hein, on peut le comprendre, quand on coupe un globe en deux, on veut le représenter comme ça. Ça étend le nord et ça étend l'extrême sud. Moyennant quoi, dans le planisphère de Mercator, non seulement le Groenland est très grand, mais le nord canadien, la Scandinavie et finalement l'Europe également. Et qui est-ce qui et ça devient plus grand qu'une réalité. Qu'est-ce qui est conforme à la réalité à peu près? C'est les pays qui sont près de l'équateur. Et les pays près de l'équateur, c'est l'Afrique et c'est l'Amérique latine. Bon. Autrement dit, on a une surreprésentation de l'Europe et des États-Unis et une sous-représentation, évidemment, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Ce qui correspond très très bien idéologiquement à ce qui se passait, ces cartes, elles ont été faites pour les navigateurs, et ce qui comptait à l'époque, c'était pas de prendre en considération la réalité géographique de ces pays, Afrique et Amérique latine, mais de pouvoir y aller. Et pour pouvoir y aller, les navigateurs, ils avaient besoin de cette carte-là. Donc ça a intériorisé pendant des années, pendant des siècles, une intériorisation d'une représentation du monde complètement fausse. Après, il y a eu d'autres représentations, dont la plus connue, c'est celle d'un nommé Péter, qui, elle, ne tient pas compte des angles, mais tient compte des surfaces réelles. Et alors, on l'a déjà vu, mais on ne l'a pas intériorisé, une toute autre représentation du monde, dans laquelle l'Europe est beaucoup plus au nord, beaucoup plus petite, et dans laquelle l'Afrique australe se prolonge complètement vers le bas comme un jour sans pain, là. Et puis l'Amérique latine, c'est une espèce de large ficelle qui descend scotchée sur le Venezuela. Et donc ça donne déjà... Alors pour peu en plus que vous fassiez cette représentation sans foutre l'Europe en plein centre, que vous décidiez par exemple que le centre de la carte, c'est les îles Vanuatu, par exemple, vous aurez un monde complètement inconnu dans lequel on ne s'y reconnaîtrait pas. Et pourtant... les données de base sont les mêmes que dans le planisphère de Mercator. C'est-à-dire, tous ces pays qui sont marginalisés dans Mercator, ils existent, on peut les retrouver. L'Amérique latine, elle y est. Le sud-est asiatique, il y est. L'Afrique, il y est. Elle y est. Mais représentée de manière à être complètement marginalisée. Cette perception-là, dans laquelle on a tous les éléments, mais on peut les présenter de manière à ce que ils disparaissent de l'espace géographique, on le retrouve au lendemain des élections. Les élections européennes, c'est comme la projection, mais on dispose de tous les éléments. Les chiffres, on nous les donne. Hein. On trouve facilement au lendemain des élections le chiffre des abstentions. On en parle beaucoup d'ailleurs, et certains sont réjouis que il y avait eu c'est Libération qui a dit qu'il y a eu une participation du siècle. Participation du siècle, c'était une augmentation de moins de 1% de la participation par rapport aux précédentes élections. Il lui en faut peu pour se réjouir. Mais on a les chiffres aussi des bulletins blancs, on a les chiffres des bulletins nuls, on a un peu moins, mais on peut les trouver quand même, le chiffre des non-inscrits, et on peut aussi trouver le chiffre des gens qui résident sur le sol hexagonal, on va l'appeler hexagone plutôt que France. Le nombre des résidents non français qui n'ont pas de carte d'identité, c'est-à-dire non considérés comme des citoyens. Tous ces chiffres, on les a. Et alors après, le problème, c'est comment on va les mettre en musique, comment on va les représenter sur le papier, comment tout ça va s'accommoder, comment on va marginaliser certaines choses, mettre en évidence d'autres. Et ça, c'est un travail que font aussi bien les géographes que les sociologues, que les politologues, comme on dit. Bon. Pour résumer un petit peu, pour donner quelques chiffres non complets, mais quand même pour donner quelques aperçus, on sait que c'est la moitié des inscrits qui se sont abstenus, mais on sait aussi qu'il y a eu 4,5% de bulletins blancs et nuls, et les bulletins blancs ont beau maintenant être décomptés, ils n'entrent toujours pas en considération de suffrages exprimés. Ce sont des non-exprimés dont on donne le chiffre dans la nouvelle loi. Et avec les blancs et nuls, pardon, ça fait monter la non-expression, puisque on parle de suffrage exprimé, la non-expression à 52%. Ce ne sont donc que 48% de citoyens français, j'entends citoyens qui ont la nationalité française et qui sont censés avoir une carte d'identité, ce ne sont donc que 48% de citoyens français qui n'ont voté pour aucun candidat. Paradoxalement, alors que le nombre de candidats n'a jamais été aussi grand, et le choix très très grand, théoriquement. Mais on considère aussi qu'il y a 3 millions de citoyens, donc qui ont la nationalité française, qui ne sont pas inscrits pour différentes raisons. Et donc, ça veut dire qu'avec ces 3 millions de non-inscrits, le nombre de citoyens français en âge théoriquement de voter, c'est-à-dire de plus de 18 ans, sont 50 millions. Et donc, les chiffres, pour faire apparaître les proportions, il faudrait compter sur 50 millions et non pas sur 47%, sur 47 millions de suffrages exprimés ou exprimés par une manière blanc ou nulle, ou qui ne sont pas allés voter mais qui étaient inscrits. Alors, les chiffres, on va les donner, ça donne la réalité suivante. Le Rassemblement national, eh ben, il ne représente plus que 11,1%, en gros, hein, faut pas pinailler sur un petit pourcentage, des 5 millions d'inscrits. Et si on compte la totalité des gens qui ne sont pas, avec les gens pas inscrits, c'est seulement 10,5% de citoyens français qui ont voté pour le Front National. De la même manière, bah, La République En Marche, c'est simplement 10% seulement. Europe Écologie, c'est seulement 6%. Et globalement, on peut dire que c'est moins de 40% qui ont voté pour un parti représenté au Parlement. Parti représenté au Parlement, en plus de la France Insoumise, du PS, de l'Union de la Droite, d'Europe Écologie, En Marche, etc. Il y a le Parti communiste. Moins de 40%, ce qui introduit quand même une illégitimité de la représentation parlementaire et une contradiction fondamentale avec les bases de ce qui est censé être la représentation démocratique d'un système parlementaire. Le Parlement est censé représenter l'ensemble de la population avec une majorité et des minorités. 35% seulement des gens ont voté pour les représentants au Parlement. Non, pas ont voté. Si on tient compte des non-inscrits, c'est plus que 35% la légitimité du Parlement. C'est 40% des votants et 35% de la totalité des... Et en plus, on peut dire autre chose, c'est que 80% n'ont pas voté pour les deux chevaux de tête qui faisaient la course en tête et qui se battaient et qui ont présenté leur duel entre social-fascisme et fascisme social. Enfin bon, ont présenté leur duel comme quelque chose de très très important qui représentait vraiment les vraies contradictions des sociétés françaises et aussi européennes, eh bien 80% des gens n'ont pas voté pour ces deux partis. Et tout ça, ça relativise aussi quand même considérablement l'angoisse que les uns et les autres peuvent avoir au résultat de tel ou tel. Ça veut dire que sur 10 personnes que vous croisez dans la rue, une seule a voté Rassemblement National, une sur 11 a voté La République En Marche, une sur 15 Europe Écologie. Et évidemment, ça relativise complètement le sens des interprétations et le sens de ces élections. Cela relativise aussi les analyses et les discours sur les votes par catégorie. On a beaucoup dit que le Front National, que le Rassemblement National, avait capté le vote ouvrier. Mais il faut relativiser dans la mesure où ce captage, ces analyses, se basent sur des quantités extrêmement faibles. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dit que Le Pen a récupéré le vote ouvrier, il s'agit des voix exprimées ouvertement. Et toutes les voix non exprimées ne rentrent pas en compte dans cette analyse. Alors, bien évidemment qu'une partie du vote ouvrier est allée chez Le Pen. Mais ce n'est pas capter le vote ouvrier, comme on dit, avec un grand L, comme on dit, la majorité ou l'ensemble ou la représentation de tout le monde. Et je voudrais terminer par une représentation. En général, les représentations post-électorales, elles se font sous forme de camembert. En France, on dit un camembert. En Italie, ils appellent ça une pizza. Et en Angleterre, un dolce, un grand gâteau. C'est comme quoi il y a une influence culinaire et culturelle sur les élections. Bon, ces camemberts, ils sont censés... 180% d'un camembert, c'est censé représenter la totalité de la société française en matière électorale. Un petit peu comme le planisphère dont on a parlé tout à l'heure est censé représenter l'ensemble du globe terrestre, avec les bonnes proportions. La société française, ce sont 180% du camembert. Pourtant, imaginez ce que serait ce camembert... Si vous mettiez plus de 30%, c'est-à-dire toute la partie droite ou la partie gauche, noire, voilà, elle est noire, c'est les abstentions, elle est un peu plus grande que 90%, donc 180, elle est un peu plus grande si vous rajoutez les bulletins blancs et nuls, encore un peu plus grande si vous rajoutez les 3 millions de... Et voilà, tout ça, c'est blanc. Il reste une proportion... qui est de l'ordre de 20-25%, que se partagent tous les autres partis. Et bien évidemment, le journal qui publierait ça comme ça, le journaliste qui publierait ça, il se ferait taper sur les doigts, parce que qu'est-ce que ça veut dire de représenter l'ensemble de la société française dans laquelle la représentation ne représente plus grand-chose ? Ça serait visuellement incompréhensible de représenter tout ça comme n'existant pas et de réduire la représentation à ce petit, un peu plus du petit quart. Voilà. Et donc là, on voit bien que la façon dont on représente, la façon dont ensuite on intègre la réalité, la partition dans la société française dépend de la façon dont on présente les choses. Et je terminerai par juste un point, ce sont les graphiques, parce qu'on peut représenter la réalité aussi sous forme de graphiques. Et donc des graphiques, ça monte, ça descend, il y a des pics, il y a des creux. Et la façon dont on représente les graphiques, elle aussi induit complètement la vision que vous allez avoir du phénomène. Un graphique, ça peut être étendu à l'infini, un peu comme un banc de néon qui joue un truc de tango très élargi. Et donc, vous allez avoir des courbes extrêmement fines, peu nuancées, douces. Et ça représentera une société peu conflictuelle. Quelque chose qui se passe bien. Au contraire, vous pouvez resserrer le banc de néon et avoir un graphique avec les mêmes chiffres exactement, qui est extrêmement serré, avec des pics qui ressemblent à des dents de requin, et ça monte très haut, ça descend très bas, tout ça avec les mêmes chiffres, et ça vous donnera l'idée d'une société agitée, violente, en conflictuelle. Donc tout ça, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que ces techniques sont des techniques de persuasion clandestine. Et ces techniques de persuasion clandestine qui sont parfaitement utilisées, on les retrouve aussi dans beaucoup d'analyses qui ont été faites au cours des derniers mois dans les commentaires à propos des Gilets jaunes.
Et d'ailleurs, Jean-Pierre, si je puis me permettre, ce que tu disais, en fait, ça m'a fait penser à un ouvrage qui s'appelle Le Petit cours d'autodéfense intellectuelle par Norman Baillargeon, qui est justement un ouvrage qui essaie d'un petit peu de décortiquer sur toutes ces questions de chiffres, graphiques, données, et comment est-ce qu'effectivement, à partir d'une base de chiffres qui parfois peut être dite objective, sauf qu'elle n'est pas forcément objective, ça dépend comment est-ce qu'on calcule, et comment est-ce qu'effectivement traduire cette base chiffrée en graphique, ça peut induire effectivement des orientations idéologiques, de points de vue, etc. Et que pour ceux que la question intéresse, sur comment est-ce qu'on peut effectivement manipuler des chiffres et leur faire dire un petit peu ce qu'on veut ou le contraire de ce que les autres veulent entendre, etc. etc. Je conseille ce petit ouvrage de Norman Baillargeon qui s'appelle donc Petit cours d'autodéfense intellectuelle qui est édité chez Lux. Et si je peux me permettre, Jean-Pierre, je crois qu'à un moment, tu as fait une erreur de chiffre, parce que tu as parlé de 5 millions de votants, et c'était plutôt 50 millions de votants, je crois.
Non, c'était juste... c'est 47 millions d'inscrits. Ouais. 47 millions d'inscrits, 50 millions de citoyens. Et les votants, c'est 45 divisé par 2.
Oui. Mais voilà, pour ne pas perdre les auditeurs, ouais, il y avait une petite... Mais avec tous ces chiffres, parfois, parfois on s'y perd.